Bienvenue pour cette analyse de l'actualité africaine. Aujourd'hui, on se penche sur plusieurs développements politiques, économiques aussi, assez marquants sur le continent.
Oui.
On va s'appuyer sur des dépêches assez récentes, du 13 mai 2025.
C'est ça. Au programme, des transitions politiques en Côte d'Ivoire, en Guinée, des rapprochements diplomatiques aussi. On verra ça avec le Gabon et l'Angola. Les enjeux de sécurité, toujours complexes en RDC, en Ouganda. Et puis un sommet crucial sur la dette à Lomé.
L'idée, c'est vraiment de décrypter un peu tout ça.
Effectivement. Et ces articles, ils nous donnent un éclairage sur des dynamiques de fond, en fait. On voit un parti historique ivoirien, le PDCI, en pleine réorganisation.
Oui.
Une feuille de route électorale annoncée en Guinée, mais bon, sur fond de tension quand même.
Toujours.
Une réconciliation assez notable entre Libreville et Luanda. La coopération sécuritaire qui se renforce dans les Grands Lacs.
Et puis, cette initiative panafricaine face au défi de la dette, tout ça, même si ça a l'air distinct, c'est souvent lié. Stabilité régionale, pression économique, processus démocratique, tout est lié, oui. Alors, commençons par la Côte d'Ivoire. Le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, donc, un acteur majeur, historique. Ils organisent un congrès extraordinaire ce 14 mai. Pourquoi cette urgence ?
Un congrès extraordinaire, ça interpelle. Mais c'est une conséquence directe de la démission, un peu surprise, de son président Tidjane Thiam. C'était annoncé le 12 mai.
Ah oui ?
Et le timing, il n'est pas anodin. Monsieur Thiam, il est visé par une procédure judiciaire qui conteste en fait la régularité même de son élection à la tête du parti en décembre 2023. Donc certains juristes, ils pensent que cette démission, ça pourrait être une façon de contourner un peu les risques liés à ce procès.
D'accord. C'est une manœuvre, en quelque sorte. Et pourtant, malgré ça, la démission, le contexte judiciaire, les sources disent qu'il reste le grand favori pour sa propre succession. C'est assez paradoxal, non ?
C'est tout à fait paradoxal. Sauf coup de théâtre de dernière minute. Les candidatures, c'était hier, le 13 mai à 18h. Mais oui, il semble bien parti pour être conduit. Mais comment expliquer ça ? Que malgré tout, il reste favori ?
Ça suggère peut-être que, disons, les instances du parti, elles privilégient sa stature, peut-être sa capacité de financement perçue.
Et qu'elles estiment que les risques juridiques sont gérables, ou peut-être secondaires par rapport à l'objectif de reconquête du pouvoir. Donc ce congrès qui est organisé de façon assez originale, sur 45 sites décentralisés.
Ah oui, quand même.
C'est vraiment un moment crucial pour le PDCI.
Donc un moment charnière pour ce parti face à la concurrence. On pense au RHDP, le parti présidentiel.
Exactement. Le PDCI cherche à la fois à régler ses questions de leadership interne et puis à se repositionner, à retrouver son influence d'antan, quoi.
D'accord. Et cette situation en Côte d'Ivoire, ça contraste pas mal avec la Guinée, où là on parle plutôt d'une feuille de route pour sortir de la transition. Le Premier ministre, Amadou Riba, il a annoncé des dates précises, référendum en septembre, puis présidentielle, législative en décembre 2025. Ça ressemble à un signal fort vers un retour à la normale, non ?
C'est l'objectif affiché. Il faut rappeler que la Guinée est dirigée par une junte militaire depuis le coup d'État de septembre 2021. Donc, ce calendrier et puis le grand processus d'enrôlement biométrique qui est annoncé aussi, ça vise à donner des gages, à établir la crédibilité du processus de retour à l'ordre constitutionnel. Mais il faut rester prudent.
Prudent. Pourquoi ? Le contexte est difficile. J'ai lu quelque chose sur des disparitions inquiétantes.
Précisément. Les cas de Fonike Mengwe et Mamadou Biloba, qui sont des figures importantes de la société civile portées disparues depuis des mois, ça pèse lourd sur le climat politique.
Ça alimente les doutes sur le respect des libertés fondamentales pendant cette période. Alors, on a d'un côté la promesse d'élection, un calendrier, et de l'autre, ces disparitions. Cette tension, comment on l'interprète ? Est-ce que les grands projets économiques dont on parle beaucoup, Simandou, l'énergie, est-ce que ça sert aussi, peut-être, à consolider le pouvoir, à gagner une légitimité ?
C'est une lecture tout à fait plausible. Il y a clairement une dualité. Le gouvernement y met en avant ses projets. Simandou, avec la première livraison de minerais promise pour novembre 2025.
C'est bientôt ça.
Oui. Et puis la promesse de régler les problèmes d'électricité d'ici un an, voire d'exporter. Ce sont des annonces fortes censées améliorer le quotidien.
Oui.
Donc ça peut être vu comme une tentative de gagner l'adhésion populaire de projeter une image d'efficacité, mais tout en maintenant un contrôle assez ferme sur l'espace politique et civique. C'est cet équilibre un peu précaire qui caractérise la transition en Guinée.
D'accord. Alors, pendant que la Guinée cherche sa voie, la diplomatie, elle bouge ailleurs. On a vu la visite du président angolais João Lourenço à Libreville le 12 mai. Il a rencontré le président de transition gabonais, Brice Oligui Nguema. Ça, c'est un signal phare, non ? Surtout après les tensions qu'il y avait eu après le coup d'État au Gabon.
Ah oui, absolument. C'est une visite très très symbolique. C'est le premier chef d'État à aller au Gabon depuis l'investiture d'Oligui Nguema, qui a mis fin à la transition post-coup d'État d'août 2023.
Mmh.
Et il faut se rappeler que les relations s'étaient bien refroidies. Lourenço, en ligne avec la position de l'UA, qui condamne les prises de pouvoir par la force.
Bien sûr.
Avait même refusé de recevoir Oligui Nguema lors de sa tournée régionale juste après le coup.
Donc là, c'est une normalisation assez spectaculaire. Ça a été facilité par la levée des sanctions de l'UA contre le Gabon en fin avril, j'imagine.
Exactement. La levée des sanctions, ça a ouvert la porte. Et Lourenço, qui préside actuellement l'UA, il n'a pas seulement normalisé les relations, il a carrément salué le retour à l'ordre constitutionnel. Le bon déroulement des élections au Gabon, il a parlé de modèle.
Un modèle ?
Oui. Et il a même invité son homologue à Luanda.
C'est une normalisation rapide, donc.
Et salué comme un modèle par le président de l'UA lui-même. Mais...
est-ce que ça ne risque pas de créer un précédent, d'affaiblir peut-être la pression sur d'autres transitions ailleurs, jugées moins abouties ?
C'est une bonne question, hein, sur l'impact potentiel de cette approche au cas par cas. Mais bon, du point de vue de l'UA et de l'Angola, le message c'est plutôt « le Gabon a rempli les conditions pour être réintégré ». Notamment avec des élections jugées crédibles.
D'accord.
Donc cette visite, elle illustre une certaine facette de la diplomatie africaine qui cherche à accompagner activement les sorties de crise.
Même si ça peut soulever des débats sur la cohérence, oui. Et cette dynamique régionale, ça nous mène tout droit en RDC, en République démocratique du Congo. Là, la coopération sécuritaire avec l'Ouganda voisin, elle semble se renforcer. La visite du président de l'Assemblée nationale congolaise, Vital Kamerhe, à Kampala, du 9 au 12 mai, ça s'inscrit là-dedans.
Tout à fait. Alors, officiellement, il participait à une conférence interparlementaire, mais l'enjeu principal, c'était bien politique et sécuritaire. Il était porteur d'un message spécial, dit-on, du président Tshisekedi pour son homologue ougandais, Museveni. Mm. Et ça portait sur la situation dans l'est de la RDC, bien sûr. Tout ça, ça s'inscrit dans un rapprochement entre les deux pays qui est assez notable depuis novembre 2024.
Et concrètement, il s'est décidé quoi ? On parle d'opérations militaires conjointes ?
Oui, un accord a été trouvé pour poursuivre et même intensifier les opérations militaires conjointes entre les FARDC, l'armée congolaise, et l'UPDF, l'armée ougandaise.
D'accord.
Ces opérations, elles ciblent plusieurs groupes armés, notamment les ADF, ce groupe affilié à l'État islamique.
Oui.
Mais aussi la milice Codeco, qui est très active en Ituri. Donc, ça concerne le Nord Kivu et l'Ituri. Il est prévu des patrouilles communes, des unités spécialisées pour sécuriser des zones clés, autour du lac Albert, dans les territoires de Djugu, Mahagi.
Donc, Kinshasa joue un peu sur plusieurs tableaux. Il y a les pourparlers avec Kigali, sous l'égide des États-Unis, et en même temps, on renforce l'axe militaire avec Kampala. C'est une stratégie assez complexe face à l'insécurité qui dure dans l'Est.
C'est exactement ça. Face à la complexité de la situation, et puis aux dynamiques régionales qui impliquent le Rwanda, notamment la RDC, elle cherche à consolider ses alliances. Et l'Ouganda, c'est un partenaire militaire incontournable dans la région.
Clairement.
Donc ce renforcement de la coopération bilatérale, c'est vu comme un levier stratégique vraiment essentiel pour Kinshasa. En parallèle des efforts diplomatiques plus larges, bien sûr.
Des enjeux politiques, sécuritaires. Mais bon, le nerf de la guerre, ça reste souvent l'économie. Hein. Et justement, à Lomé, il y a un sommet assez inédit de l'Union africaine qui se penche sur cette question épineuse de la dette publique africaine. De quoi il retourne exactement cette conférence ?
Alors oui, c'est une première. L'UA organise une conférence spécifiquement dédiée à la gestion de la dette publique. Ça réunit depuis le 12 mai et jusqu'au 14, à Lomé, plus de 500 participants. C'est assez impressionnant. Chefs d'État, ministres des Finances, gouverneurs de banques centrales.
Ah oui.
Mais aussi la société civile, les partenaires au développement. Et le thème est très clair. L'agenda africain de gestion de la dette publique, restaurer et préserver la viabilité de la dette.
Et le contexte justifie cette mobilisation ? La situation est si grave que ça ?
Elle est préoccupante. Oui. Selon la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, on a plus d'une vingtaine de pays africains qui sont soit en situation de surendettement, soit à haut risque de le devenir.
Une vingtaine ?
Oui. La pandémie, les chocs économiques mondiaux, la hausse des taux d'intérêt, tout ça a aggravé une situation qui était déjà fragile pour beaucoup. Donc à Lomé, les discussions portent sur la recherche de solutions. Des solutions durables et, si possible, souveraines.
Mmh.
Comment mieux restructurer des dettes, trouver des financements innovants, améliorer la gouvernance, la transparence, lutter contre les flux financiers illicites aussi qui coûtent cher aux États. Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l'UA, il a beaucoup insisté sur la solidarité africaine et sur un dialogue plus équilibré avec les créanciers.
Et au-delà des discours, on peut attendre quoi concrètement de cette rencontre ? Cette fameuse déclaration de Lomé qui doit en sortir, quelle portée elle pourrait avoir ?
L'ambition, c'est que cette déclaration de Lomé, elle serve de base, de socle, pour une position africaine commune dans les négociations futures sur la dette, que ce soit avec le G20, le FMI, la Banque mondiale, les créanciers privés.
Une position commune, d'accord.
Voilà, ce document, il pourrait orienter les réformes économiques internes, plaider pour des mécanismes de restructuration plus justes, plus rapides, et peut-être intégrer davantage les institutions régionales africaines, la société civile, dans le suivi. C'est vraiment une tentative de peser collectivement et de promouvoir des solutions africaines face à ce défi économique majeur.
Voilà qui boucle notre tour d'horizon, basé sur les informations du jour. On a vu donc les enjeux de leadership en Côte d'Ivoire au sein du PDCI, la feuille de route politique complexe en Guinée, le dégel diplomatique entre le Gabon et l'Angola, qui envoie des messages multiples, le renforcement de l'axe sécuritaire Kinshasa-Kampala face aux groupes armés en RDC, et puis cet effort collectif à Lomé pour essayer de repenser la gestion de la dette africaine.
Oui, ces différents points, ils illustrent bien la complexité des défis, gérer des transitions politiques internes qui sont délicates, faire face à des menaces sécuritaires régionales qui demandent des coopérations parfois difficiles.
Oui.
Et puis subir des pressions économiques globales qui exigent une action concertée de nouvelles approches. Et ce fil rouge-là, de la recherche de solutions africaines, que ce soit pour la dette ou la sécurité, il est assez frappant. Il semble vraiment gagner en importance dans les discours, dans les initiatives.
Tout à fait. Et pour terminer, peut-être en question pour prolonger la réflexion, si cette volonté de promouvoir des solutions africaines, elle se confirme, elle se renforce, que ce soit à Lomé ou dans les coopérations régionales comme RDC ou Ouganda, comment est-ce que ça pourrait remodeler dans les années qui viennent l'équilibre des relations entre le continent africain et ses partenaires internationaux, qu'ils soient traditionnels ou émergents ? Est-ce que ça pourrait ouvrir la voie à une plus grande marge de manœuvre, une plus grande souveraineté dans les choix politiques et économiques ?